Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Avec Christian Page, là, on est en grande discussion. Bonjour Christian.
Bonjour Marie-Hélène.
Sur quelque chose, parce que j'aime bien quand Christian est là, parce que des fois, il me parle de des affaires, puis là, je fais des liens avec d'autres choses dont j'avais déjà entendu parler. Et là, tu vas nous parler de cet énigmatique prisonnier de Dunkerque, mais qu'on connaît plus qu'on pense.
Voilà, parce que bon, j'ai choisi un éphéméride qui touche, en fait, un événement de l'histoire qui touche particulièrement nos cousins français. Mais les gens qui sont à l'écoute ce matin vont aussi reconnaître cette histoire parce qu'elle est célèbre à travers le monde et le cinéma s'y est beaucoup intéressé. Donc, je nous ramène dans l'histoire. On est en 1669, en 1669. Le roi Louis XIV fait arrêter un inconnu. Donc, un personnage qui n'apparaît pas dans la cour de France, il le fait arrêter à Dunkerque. En fait, à Dunkerque-Calais. On sait que le personnage se trouve dans cette région-là. Il est donc arrêté à la mi-juillet 1669. Il va arriver début août à la prison de Pignerol. Il est confié sur ordre du roi à M. de Saint-Mars. M. de Saint-Mars, c'est l'intendant de toutes les prisons de France. Donc, c'est Monsieur Justice là, de prison. Là. Et c'est lui à qui on confie spécifiquement ce prisonnier de Dunkerque. La prison de Pignerol, il faut la situer également. C'est une forteresse. Ce n'est pas une prison dans le sens où on l'entend. C'est vraiment plutôt une sorte de résidence surveillée. Se trouvent dans cette grande forteresse de Pignerol 5 prisonniers, des hommes célèbres qui ont été mis un peu à l'écart du régime français. Et parmi eux se trouve Nicolas Fouquet, un personnage bien connu dans l'histoire de France, qui était l'intendant des finances du roi Louis XIV. Mmh. Il était connu pour faire des soirées, des réceptions tellement somptueuses qu'elles faisaient ombrage à sa majesté. Louis XIV a donc décidé que Nicolas Fouquet devait détourner des fonds de l'État parce que c'était au-delà de ses moyens. Il le fait envoyer à Pignerol avec d'ailleurs 2 serviteurs. Donc, ça nous montre un peu la situation, les conditions de détention de ces prisonniers. Il y a également un type qui s'appelle Ercole Mattioli, qui est un espion italien, qui a un petit peu joué à manger à tous les râteliers dans une histoire de vente d'un château du roi Louis XIV. Louis XIV, se sentant floué, a fait arrêter le dit Mattioli, qui se trouve également à Pignerol. Et c'est là que va se retrouver donc notre prisonnier de Dunkerque. Il est installé dans les sous-bassements de la prison et il y a des échanges entre ces hommes, mais peu importe les échanges, tous les prisonniers de Pignerol ne sortiront jamais vivants de la prison. Donc, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. À ce moment-là, donc, les conditions de détention de ce prisonnier de Dunkerque sont relativement aisées. Mais tu vas voir que ça va se durcir avec les années. Donc, ces gens-là échangent. En 1680, Fouquet va décéder. Et même un peu avant, l'un de ses valets était décédé, ce prisonnier. On sait aujourd'hui que son nom d'entrée dans les registres de France était le nom de Eustache d'Angers. Eustache d'Angers, ça aurait pu être M. Tartampion ou n'importe
mais
qui.
Mais il ne s'est pas fait arrêter pour son
nom. Non, il ne s'est pas fait arrêter pour son nom. Donc, ce Eustache d'Angers, même à un moment donné, lorsqu'un valet de Nicolas Fouquet décède, l'intendant décide de permettre à ce d'Angers de le remplacer. Il devient donc un peu le laquais de Fouquet. Tous ces gens-là échangent entre eux. En 1680, ce Nicolas Fouquet décède et là, bien sûr, Eustache d'Angers retrouve sa cellule et éventuellement, on va le transférer dans une autre prison parce que M. de Saint-Mars, évidemment, est appelé à d'autres prisons, de superviser d'autres centres de détention. Et on demande spécifiquement qu'il amène avec lui ce mystérieux prisonnier de Dunkerque. Il devra transporter ce prisonnier avec lui partout où il ira. Et c'est là que l'histoire devient de plus en plus complexe. Les conditions de notre prisonnier
se détériorent
et se resserrent. Monsieur de Louvois, qui est un peu l'un des conseillers du roi de France et qui parle en son nom, écrit à Monsieur de Saint-Mars en disant « Vous savez, le prisonnier, il ne doit jamais parler à qui que ce soit. Il devra vivre dans cette solitude où il n'aura jamais de contact avec d'autres prisonniers. »
On a peur qu'il dise
quelque
chose.
S'il tente de parler, il devra être tué sur le champ. S'il tente de révéler son identité, il devra être tué sur le champ. Et s'il doit être mis en présence de d'autres prisonniers, il devra porter un masque pour s'assurer que son identité ne soit jamais révélée. Et c'est dans ces conditions de détention et d'isolement que notre prisonnier de Dunkerque va passer d'une prison à une autre. Il va même, à un moment donné, être incarcéré à la prison de l'île Sainte-Marguerite, qui se trouve au large de Cannes. Pour les gens qui ont visité Cannes, un endroit incontournable. L'île de Sainte-Marguerite et la forteresse. Notre prisonnier de Dunkerque sera détenu là. Et en 1703, il va décéder. À ce moment-là, il se trouve à la prison de la Bastille, qui est à Paris. Il va décéder en 1703 et sera du roi, on va l'enterrer dans le cimetière de l'église Saint-Paul avec simplement le nom de Machiavelli. Pourquoi on l'entre dans les registres de France sous le nom de Eustache d'Angers? Pourquoi, lorsqu'on l'enterre, on l'appelle Machiavelli, qui fait penser un peu à Machiavélique, ou le nom d'un autre prisonnier? Quoi qu'il en soit, ce mystérieux prisonnier de Dunkerque, on ne connaîtra jamais son secret. Beaucoup plus tard, Voltaire va l'utiliser parce que l'histoire de cet inconnu masqué qui ne pouvait révéler ses secrets va évidemment inspirer toutes sortes de rumeurs. Voltaire va l'utiliser dans des écrits dans des écrits pamphlétaires pour dénoncer les injustices, pour dénoncer les messes basses de la royauté. Ouais. Et éventuellement, c'est assez étonnant parce que Alexandre Dumas père va écrire à un moment donné trois romans qui ont pour personnages principaux les Trois Mousquetaires. Donc son premier roman, c'est les Trois Mousquetaires. Il va écrire ensuite une suite qui s'appelle 20 ans après. Et ensuite le dernier, c'est le Vicomte de Bragelonne. Et dans le Vicomte de Bragelonne,
il y a
un court passage qui parle de ce prisonnier sous le nom de l'homme au masque de fer.
Et là, ça dit quelque chose à tout le monde.
Mais oui, voilà. Et pourtant, c'est qu'un tout petit passage, presque un élément anecdotique. Mais l'homme au masque de fer d'Alexandre Dumas a fait fantasmer. Était-il le frère jumeau du roi Louis XIV? Était-il un enfant illégitime du roi Louis XIII qui aurait pu faire ombrage au royaume de Louis XIV, le roi soleil? Toutes les théories ont été avancées pour essayer d'expliquer la nature ou les origines de ce personnage. Et on ne les connaît pas aujourd'hui. Il y a même une dernière théorie qui a été avancée tout récemment, une dernière hypothèse, voulant que l'homme au masque de fer n'ait été qu'une pure invention de Saint-Mars. Il aurait choisi un laquais pour en faire un personnage légendaire pour se valoriser. Lui, il était le gardien d'un individu important que le roi de France craignait. Mais on ne sait pas qui était l'identité de ce mystérieux
très
homme
intéressant,
au masque
bien
de fer.
Mystérieux.
Et encore aujourd'hui, 300 ans après ces événements, on en parle encore aujourd'hui. On spécule sur son identité.
Moi, je suis native de la région de Québec, Christian, et je n'ai jamais entendu, je me rappelle pas avoir entendu parler de quelque chose qui s'est passé à Beauport.
Oui, on est à la mi-juillet 1989. Et là, on a une maison avec quatre logements. C'est le 3566 rue Monseigneur Gauthier. La maison existe encore aujourd'hui. On a changé les revêtements extérieurs, mais on reconnaît les lignes principales de l'édifice.
Okay.
Donc, ça a beaucoup changé depuis. Donc, à la mi-juillet 1989... comme je l'ai mentionné, il y a quatre loyers, quatre logements, et ce sont les logements d'en bas où un des murs mitoyens se met à cogner. Et ça cogne en sapristi. En fait, ça frappe dans le mur à un point tel que le placoplâtre se déforme et crée littéralement une bosse, comme si quelqu'un frappait avec un marteau sur la paroi. Alors, évidemment, les logements d'en bas sont occupés par une Madame Cochrane et Madame Godbout. Et évidemment, chacune croit que c'est sa voisine qui frappe dans le mur. Alors, elles se parlent et bien sûr, les deux ont entendu les coups. Mais qu'est-ce qui peut... Et les coups sont si forts et ils se produisent de manière répétée. Là. Ça peut aller à 7-8 coups à l'heure. Un point tel qu'à un moment donné, on commence à craindre que la charpente de l'édifice souffre de ces coups-là. Et éventuellement, l'une des dames, Madame Godbout, va faire couper un morceau de placoplâtre pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais il n'y a absolument rien. Alors, on commence de plus en plus à s'inquiéter de ces coups. Et évidemment, les locataires du haut en ressentent également les contre-coups. C'est tout l'édifice qui vibre à ce moment-là. Alors, elles vont en parler à la propriétaire, Madame Sans Façon, qui, elle, va contacter la ville de Beauport. Et là, évidemment, chacun va y aller de sa petite hypothèse. D'abord, on envoie un spécialiste, un ingénieur en bâtiment, M. Dubé, qui débarque à la maison en question. Et j'y étais, j'accompagnais
Mais
M. Dubé.
Mais voyons donc, Christian.
Alors, écoute, je les ai vécus à la première personne.
OK, explique-moi comment il se fait que tu t'es retrouvé là. Toi.
Parce que quand les coups commencent à frapper dans la maison, on en parle et le Journal de Québec commence à parler de la mystérieuse maison hantée de Beauport. Il faut savoir que l'été, c'est souvent la période morte sur le plan médiatique. Donc, on espère une apparition du monstre du Loch Ness, une maison de fantômes, ouais. L'arrivée des extraterrestres. Mais on souhaite qu'il y ait quelque chose arrive. Et cette histoire apparaît un peu comme une manne pour les journalistes de Québec, cette maison où il y a des coups mystérieux qui sont frappés dans les murs et personne ne semble savoir. Et ce qui est assez surprenant, des gens peut-être qui nous écoutent ce matin vont peut-être se rappeler de cet événement. Il y a la télévision, le groupe TVA de Québec qui avait envoyé sur place un journaliste et au moment où le type parle avec l'une des locataires...
On a entendu les coups.
Il lui dit « Ça ressemble à quoi ces coups-là, Mme Godbout? » Et comme il dit ça, on voit le mur derrière elle qui bouge. Bang, bang. Et elle lui répond, elle dit exactement comme ça.
Hey là là, okay.
Et là, on le voit en direct. Donc, évidemment, tout le monde s'inquiète de ça. On va appeler un ingénieur. Et moi, bien, évidemment, je me retrouve impliqué là-dedans. J'arrive là. Au moment où les coups vont être frappés, à un moment donné, j'avais l'épaule à côté sur la cloison. Et crois-moi, c'était comme si j'avais reçu un plaquage d'un joueur de football. Ça frappait et ça frappait violemment. Alors, éventuellement, dans les jours et les semaines qui ont suivi, on a pensé à tout. Est-ce que c'était la chaleur qui faisait que la maison bougeait avec un... Mais à un moment donné, il a plu, la terre s'est gorgée d'eau et la maison continuait de cogner. Ouais. Et c'était la seule maison de tout le quartier
puis
qui bougeait.
Madame Chose, là, elle dormait encore dans cette maison-là.
Éventuellement, la ville de Beauport ont fait évacuer la maison. À défaut de trouver une explication, on a fait venir les gens de gaz métropolitain, on a fait venir des ingénieurs en bâtiment. Seule cette maison-là bougeait. Elle n'a jamais bougé avant, elle n'a jamais bougé après. Et lors de cet été de 1989, lorsque les locataires ont été évacués, l'une des dames me disait qu'elle avait placé sur son calorifère, sur le mur mitoyen, parce que c'était toujours le mur mitoyen qui frappait, elle avait placé des petits bibelots en porcelaine. Et lorsqu'elle revenait dans les premiers jours après l'évacuation, elle voyait que tous les petits bibelots étaient tombés du calorifère. Donc elle se disait que ça a dû cogner solidement. Ouais. Et au fil du temps, peu à peu, les coups ont cessé. Et ça s'est arrêté. On n'a jamais trouvé d'explication définitive à ces mystérieux coups frappés dans cette maison du 35-66.
Mais toi, t'en penses quoi?
Je n'ai pas d'explication, Marie-Hélène. J'ai été très surpris de ce qui s'est passé là, mais je n'ai pas trouvé d'explication.
Ben merci beaucoup, Christian. À chaque fois, il y a des histoires toutes plus invraisemblables les unes que les autres.
Et pourtant, vrai.
À la semaine prochaine, Christian Page.
Merci.